Prendre le repas du Seigneur. Je crois qu'il y a des moments, c'est bien de réfléchir aussi. On peut tellement s'habituer à un fonctionnement, à même à prendre le pain et le vin, on peut s'habituer. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le pain et le vin, peut-être en réfléchissant. Et ce message, il va être simple ce matin, mais il se veut être un appel pressant. C'est un appel pressant. Peut-être pour certains, pour plusieurs. On a chanté tout à l'heure, pas dans ce chant l'avant-dernier, « J'ai compris ton pardon et ton amour ». Mais est-ce qu'on l'a vraiment compris? On le chante, je le chante, et quand je dis « Est-ce que nous ?», je m'y mets dedans. Est-ce que vraiment on a compris ce qui s'est passé à la croix? Et ce matin, ça a été dit, rappelé tout à l'heure dans un don spirituel, tout ce culte tourne autour de la croix et le message va tourner autour de la croix. Je voudrais lire un texte que nous connaissons, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 42. On est là au moment de la crucifixion. C'est un texte vraiment que j'ai lu comme vous pour la plupart des dizaines et des dizaines de fois. Mais vous savez, parfois vous lisez un texte et puis à un moment donné, là, il y a quelque chose qui... Ah, ça, voilà, ça ressort. Et je crois vraiment que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment que ce matin, peut-être ça puisse frapper à la porte de ton cœur. Ça puisse résonner à la porte de notre cœur. Jean chapitre 19, verset 28. On est là dans les derniers instants de la croix. Il est dit « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la suite. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu, en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Vous vous rappelez que celui qui écrit ça, il était là à la croix lui. Les autres, ils n'étaient plus là, les autres disciples, mais lui, il y était. C'est pour ça qu'il dit ça. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloé. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Le verset qui va surtout nous intéresser ce matin, c'est le verset 30, quand il nous est dit que quand Jésus a pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je crois que c'est important de réaliser que le moment le plus important de toute la Bible, vous l'avez là. C'est ce moment-là qui est le plus important. C'est le moment où Jésus prononce le « Tout est accompli ». Toute la Bible converge vers ce moment-là. Tout l'Ancien Testament est là pour nous amener vers ce moment-là. Tout ce que les prophètes ont annoncé est là pour nous amener vers ce moment-là. Et surtout vers ce moment où Jésus prononce ce cri de triomphe, tout est accompli. Alléluia. Et je crois que c'est important de réaliser que c'est le moment que le diable redoutait le plus. Il a tout fait pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Et même jusqu'au dernier moment, on se souvient de ces gens qui ont dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix afin que nous voyions et nous croyons. C'était une ultime tentative pour empêcher Jésus d'aller à la croix et d'accomplir le salut pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important de réaliser ce matin ce qu'implique le tout est accompli et ce qu'il y a derrière le tout est accompli. Parce que nous, on lit ça comme ça. Mais qu'est-ce que ça implique, sans être trop compliqué ce matin? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans le grec? Alors, je ne suis pas un féru de grec, moi. Hein. Mais tout est accompli, c'est tétélestai. Tout est payé. Tout est acquitté. C'est fait. Voilà, c'est fait. Voyez. Et le péché est vaincu. Le diable est vaincu. Ça y est, le salut est accompli. C'est ça que ça implique. Ça y est, tout est fait. Il n'y a plus rien à faire. Et on se rend compte que suite à cette parole de Jésus, quand vous croisez avec les autres évangiles, vous rendez compte qu'il y a des choses qui se sont passées à partir du tout est accompli. Et notamment, et on va l'afficher, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré. Regardez Matthieu 27, je le prends dans Matthieu. Il est dit Jésus, alors là vous avez le même texte, mais dans Matthieu, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et notez bien, un grand cri, je vais y venir. Hein, et rendit l'esprit, c'est ce qu'on a lu. Et regardez verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Voyez, ça a été comme simultané. Au moment où le tout est accompli et prononcé, le voile du temple se déchire. C'est une action simultanée, ça se fait quasiment instantanément. Et notez bien, depuis le haut jusqu'en bas, parce que le salut vient toujours d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, ça y est, l'accès est ouvert. Le chemin est ouvert. La loi est terminée. Vous savez que dans ce lieu très saint, puisque c'est ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint, dans le tabernacle, mais dans le lieu très saint, ce n'était que le souverain sacrificateur qui y rentrait, et encore qui y rentrait une fois par an. Mais là, par le sacrifice de Jésus, par le tout est accompli, le voile se déchire, comme pour nous dire, ça y est, le voile est ouvert, le voile a été déchiré, vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu, vous pouvez accéder au salut. Alléluia. Voyez. Et l'Épître aux Hébreux nous le rappelle très bien, on va le mettre, Hébreux chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Voyez. Une libre entrée par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce voile qui est déchiré, c'est l'image du corps de Jésus qui est déchiré, pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu, pour que nous puissions rentrer dans le salut de Dieu. Et je crois que c'est tellement important de le réaliser. Si le tout est accompli n'avait pas été prononcé, nous ne serions pas là ce matin. S'il n'y avait pas eu le tout est accompli, nous serions encore perdus dans nos péchés. On n'aurait pas d'espérance, s'il n'y avait pas eu le tout est accompli, mais quelque part ce matin, je ne sais pas où nous serions, et je crois que c'est important de le réaliser, hein, de ne pas oublier que ce matin nous célébrons la victoire du Seigneur. Ce matin on célèbre un Dieu qui est vivant, on célèbre un Jésus qui a triomphé à la croix. Ce cri de Jésus, tout est accompli, mais il a fait trembler l'enfer. Et s'il y a un message que le diable n'aime pas entendre, c'est celui-là, parce que ça signe sa défaite. Sa défaite a été prononcée, a été actée il y a 2000 ans par le tout est accompli. Et ce matin, nous célébrons la victoire du Seigneur. Nous célébrons son triomphe, sa victoire sur l'ennemi notamment. Et franchement, quand je réalise ça, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma reconnaissance au Seigneur. Est-ce qu'on réalise tout ce que Jésus a dû endurer, a dû souffrir, pour que nous, ce matin, nous soyons sauvés, nous puissions nous approcher du Seigneur? Je ne sais pas si on le réalise. Et vous noterez que non seulement le voile du temple s'est déchiré, mais dans le verset 51, tu peux me voir, Matthieu 27, verset 51, on reprend le verset, il s'est passé des choses. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Vous voyez, ça montre une chose, c'est que le tout est accompli, ça a été un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre dans le sens premier du terme, mais il y a eu un tremblement de terre en enfer. Ça a été un tremblement de terre qui a tout fracassé. Et moi, je bénis Dieu pour ça. Mais le tout est accompli, ça peut être, si ce n'est pas le cas, un tremblement de terre dans notre vie ce matin. Quand on réalise ce que Jésus accomplit, quand nos yeux s'ouvrent sur l'œuvre de la croix, qu'on comprend que ce n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas une erreur de justice, quand on comprend que c'était ce qui devait être accompli et que Jésus l'a accompli pour nous, et qu'on reçoit ces choses dans notre cœur, mais c'est comme un tremblement de terre à l'intérieur. On ne peut pas rester pareil, sauf que ce tremblement de terre, il n'amène pas la mort, il amène la vie. Vous avez ici un tremblement de terre qui a amené la vie, puisqu'il nous a dit « les rochers se fendirent », et même derrière, il est dit, verset 52, Il est dit ceci, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous voyez, le sacrifice de Jésus amène la vie. Là où il y a la mort, il amène la vie. Alléluia. Et ce matin, même le cœur le plus dur, devant ce que Jésus a accompli, il peut s'ouvrir, le rocher peut se fendre. Alléluia. Mais, et c'est là où je voudrais en venir ce matin. C'est vraiment là où je voudrais arriver. C'est ce qui se passe tout de suite après le tout est accompli. Et j'avais lu, relu ça, et puis là, tout d'un coup, ça m'a comme sauté aux yeux, et je voudrais le partager avec vous ce matin. Au verset 30, je l'ai dit, vous avez le verset le plus important. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et là où j'ai été interpellé, arrêté, c'est ce qui se passe tout de suite derrière verset 31, ce qui arrive juste derrière. Alors, ça ne veut pas dire que ça s'est passé dans la seconde. Il s'est peut-être écoulé quelques heures, mais enfin, ça arrive juste derrière. Et le verset 31 nous dit ceci, « Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. » Autrement dit, la seule chose à ce moment-là qui a préoccupé les religieux, alors que le tout est accompli, le plan de Dieu vient de s'accomplir avec tout ce que ça comporte, ce que les prophètes avaient annoncé, et ce que les prophètes avaient annoncé, ils le connaissaient. Alors que ça vient de s'accomplir, leur seule préoccupation à eux, c'est d'enlever le corps de Jésus de la croix. Vous voyez, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors ok, peut-être pour les puristes, ok, c'était en stricte application de la loi. Parce que c'était ce que la loi disait. Regardez, dans le livre de Deutéronome, on va quand même l'afficher. Regardez Deutéronome, chapitre 21, verset 22. Il est dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Regardez, Jésus a pris la malédiction pour nous auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc, si ces gens au premier abord, semble accomplir la loi, accomplir cet acte, c'est parce qu'ils veulent obéir à la loi. Alors, ok, on est d'accord avec ça. Mais enfin, je suis interpellé de voir que tout de suite après ce verset 30 qui est extraordinaire, l'accomplissement du plan de Dieu, la défaite de l'ennemi de notre âme, le péché qui est vaincu, le voile qui se déchire, eux, leur seule préoccupation, c'est ça. Vous voyez ? C'est ça. Et alors, moi, ce qui m'a arrêté, c'est cette parole « dans la crainte que ». Je me dis, mais ils n'ont pas eu la crainte de faire mourir le Seigneur. Hein. Ça leur a posé aucun problème. Hein. Ils n'ont pas eu la crainte de faire libérer un meurtrier, Barabbas, qui était en prison, et vous le savez comme moi, nous le savons et eux le savaient aussi, qui est en prison pour un meurtre, dans une sédition qu'il avait perpétrée, vous voyez. Tout le monde savait ça, et il devait mourir. Vous avez au travers de la libération de Barabbas, l'image de notre propre libération. Mais ils n'ont pas eu peur à ce moment-là de faire libérer cet homme, de faire libérer ce meurtrier contre un innocent. Ça ne leur a pas posé, ça leur a posé aucun problème. Et là, je me dis, mais il y a un contraste. Il y a un gouffre énorme entre le verset 30 et le verset 31, entre ce que Jésus accomplit et l'attitude de ces gens. Vous voyez, c'est terrible. Et je me dis, mais c'est invraisemblable. Et là, j'aimerais dire ceci. Parce que là, ça, quelque part, il y a un message pour nous. Alors, c'est vrai que ça serait certainement facile de tomber à bras raccourcis sur ces gens-là. Ils n'avaient pas compris le plan de Dieu. Ok. Mais pour nous aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu? Et franchement, je le dis, il n'y a pas de jugement, et mon but, c'est certainement pas de vouloir culpabiliser qui que ce soit. Mais combien d'enfants de Dieu vivent ce même contraste? Entre d'un côté, ce verset 30, où on sait ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, on a réalisé l'amour manifesté pour nous à la croix. On a réalisé qu'on était pécheurs. Alors un jour, on a ouvert notre cœur au Seigneur. Peut-être même on s'est engagé avec le Seigneur en passant par les eaux du baptême. On a confessé le nom du Seigneur. Il y a cette vérité-là qui est là dans nos cœurs, dans nos vies, qu'on sait. Et en même temps, il y a un contraste qui est terrible avec la vie qu'on mène. Les préoccupations qui sont les nôtres. Et quand on considère ces deux choses, ce qui se passe ici, verset 30, verset 31, vous le retrouvez dans parfois des vies chrétiennes. Il y a une vérité extraordinaire qui est là, qui est quand même notre salut, parce que sinon on ne pourrait pas se présenter devant Dieu. Mais en même temps, il y a un tel contraste, parce que se dit, mais c'est invraisemblable. La façon de fonctionner, la façon de vivre, les préoccupations qui sont les nôtres, ce qui nous tracasse vraiment, ce qui nous préoccupe vraiment. Et peut-être ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, mais peut-être ça te parle ce matin. Effectivement, entre d'un côté ce que tu sais que Jésus a accompli pour toi, et de l'autre la vie que tu mènes et tes préoccupations, il y a un gouffre. Ce n'est pas du tout en accord. Et si peut-être ce matin, c'est la réalité de ton cœur, de ta vie, alors mon frère, ma soeur, ce message, il est là pour toi, pour que tu te ressaisisses sérieusement. Et quand je dis cela, c'est pas dans le sens de c'est pas dans le sens de casser, mais c'est trop important, parce qu'un jour, il va falloir nous présenter devant Dieu. Est-ce qu'on réalise qu'on va se présenter devant Dieu ? On va se présenter devant Dieu. Et si il y a eu un décalage dans ma vie, un gouffre, entre d'un côté cette vérité extraordinaire que Jésus a tout accompli pour moi, il a pris le vinaigre avec tout ce que ça, toute mon aigreur, tout ce qui me fait mal, tout ce qui est aigre, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est amer, il l'a pris pour moi, il l'a subi pour moi. Et moi, de l'autre côté, la vie que je mène, qui n'est pas du tout en conformité, mais s'il y a un décalage, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Par rapport au tout est accompli, tout est payé, je vais lui dire quoi ? Voilà pourquoi ce matin, s'il y a ce décalage-là, ben c'est l'occasion que Dieu nous donne ce matin avant de prendre le repas du Seigneur. Parce que la solution, ce n'est pas de dire je ne prends pas le pain, le vin. Ça ne règle rien, ça. Ça ne règle rien. Ce qui règle, par contre, c'est de dire Seigneur, c'est vrai, je le réalise, je te demande pardon. Et là, on peut prendre ce pain et ce vin d'une autre façon, qui va permettre au Seigneur, par le Saint-Esprit, de venir nous visiter, de venir nous renouveler, de venir nous restaurer, de venir nous relever, pour qu'on reparte d'une autre façon. Mais c'est trop important. C'est trop important. Si ce décalage, il est là, entre ce verset 30 et ce verset 31, mais il est là pour nous montrer que s'il est aussi dans notre cœur, alors ce matin, mon frère, ma sœur, c'est un appel pressant pour que tu dises, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Finalement, et je ne vais pas juger ces hommes, mais oui, ils ont appliqué la loi, mais c'était des religieux, quoi. Savez qu'on peut être des religieux ? Des religieux évangéliques. Moi, je ne veux pas être un religieux évangélique, je ne veux pas être un pasteur religieux qui connaît les choses avec la tête, mais à côté, qui la vie, elle n'a rien à voir. Je ne veux pas être ça, parce que qu'est-ce que je vais dire devant le Seigneur le jour où je vais me présenter ? Jésus a tout payé pour que quand j'arrive devant lui, puisse se dire au Père, c'est un des nôtres, c'est un des miens. Alléluia. C'est bien bon et fidèle serviteur. Mais c'est ça que j'ai envie d'entendre, moi. Après le reste, c'est cette vie-là que je veux mener pour que, non pas dans la peur, mais dans cette joie de l'honorer et de le servir. Alléluia. Mais regardez, ça ne s'arrête pas là. À partir du verset 38, vous avez l'histoire de deux hommes qui sont là. Joseph d'Arimathée et Nicodème. C'est très intéressant ce qu'il nous est dit les concernant. Finalement, si je résume, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se positionnent. Ils finissent par se positionner parce qu'ils étaient disciples en secret. Vous voyez ? Ils étaient disciples en secret. Vous voyez ? Tout à l'heure, on a lu dans la crainte, les religieux avaient la crainte que le corps ne reste sur la croix. Ici, verset 38, il dit « par crainte des Juifs ». C'était une autre crainte qui était la leur. Vous voyez ? La crainte des hommes. Vous savez que le livre des Proverbes dit « la crainte des hommes, t'as un piège ». Parfois, ce que les autres pensent, ce que les autres disent de nous, ça nous paralyse. C'était un peu ça. Jusque-là, ces deux hommes, ils étaient vraiment dans la crainte des hommes, le regard des autres, qu'est-ce qu'ils allaient penser, qu'est-ce qu'ils allaient dire. Mais béni soit Dieu, parce que dans ce moment-là, il se positionne clairement. Nicodème, vous vous rappelez, c'était celui qui était venu de nuit vers Jésus. Personne ne l'avait vu. Et il faut croire, quand on voit ce qui se passe ici, que ce que Jésus lui a dit cette fameuse nuit, presque 3 ans avant, on ne va pas se battre sur les chiffres, 2 ans, 3 ans, il faut que tu naisses de nouveau. Ça avait fait son chemin. J'aimerais dire là, peut-être ouvrir une petite parenthèse, mon frère, ma sœur, n'oublions jamais que parfois même si sur le coup on ne voit rien, on a l'impression que tout ce qu'on peut dire, il n'y a rien qui se passe, la parole de Dieu dans les cœurs, elle fait son chemin. Nous, on ne le voit pas. Et personne n'a vu ce qui se passait dans le cœur de Nicodème, mais ce que Jésus lui avait dit 2 ans ou plus auparavant, ça a fait son chemin, ça a fait son chemin, à tel point que là, devant la croix, il prend position. Ça fait son chemin. Des fois, on dit, mais Seigneur, je prie pour lui depuis tant de temps, je prie pour elle depuis tant de temps, t'inquiète. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Tu ne le vois pas, mais ça fait son œuvre. Et on le voit ici pour Nicodème. Et puis, Joseph d'Arimathée, lui, la Bible nous donne un détail dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Il dit ceci, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Et regardez verset 51, il dit ceci, qui n'avouait point participer à la décision et aux actes des autres. Vous voyez, il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Joseph d'Arimathée, il faisait partie du Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'est ceux qui ont condamné Jésus. Mais lui, il n'avait pas participé à ça. Vous voyez, il était mal à l'aise avec ça et il ne voulait pas. Sauf que, bon, je ne sais pas quel prétexte il avait trouvé. Pour pas participer à ça, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il a fait le malade, je sais pas ce qu'il a fait. La Bible rentre pas dans les détails. Est-ce qu'il a dit non, moi je serai pas là, j'ai autre chose à faire, je sais pas. Mais il a trouvé un moyen parce que dans son cœur il était pas tranquille avec ça. Voyez. Sauf que pour le Seigneur il faut se positionner. Et là à la croix, il le fait. Et là il y a 2 choses que je voudrais relever. Peut-être déjà. Je vais peut-être m'adresser peut-être aux amis qui sont là au milieu de nous. Tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Tu viens, tu entends, tu sais, tu découvres l'amour du Seigneur, tu entends parler de la croix, tu entends parler du ciel, tu entends parler de la vie éternelle, tu entends parler de comparaître devant Dieu, tu entends parler de toutes ces choses, du salut de Dieu, tu entends parler d'être sauvé, tout ça. Super. Mais la croix, le tout est accompli, exige. Et je pèse mes mots, il exige un positionnement. Et si ce matin tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, j'aimerais te dire, tu n'es pas sauvé. Et je ne le dis pas pour mettre de la pression, pour faire peur, mais parce que c'est la vérité. La croix de Jésus, le tout est accompli, exige une prise de position. Vous savez, aujourd'hui on est dans l'époque du forfait sans engagement. Je ne vais pas vous demander, sortez les portables. C'est quoi le forfait? C'est quoi le forfait? C'est quoi le forfait? 2 heures, machin, 2 euros, 19 euros. Forfait sans engagement, c'est top, hein? Ouais, dans les choses de Dieu, ça ne marche pas, ça. Il n'y a pas de forfait sans engagement. Je viens, je prends ce que j'ai à prendre, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, la bénédiction, la grâce de Dieu, une petite prière, et puis parce que j'ai besoin, là, dans tel domaine, Seigneur, interviens. Et vous savez, Dieu est plein de grâce parce que parfois, il le fait. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais voyez, Dieu, la grâce de Dieu. Je lisais hier dans ma lecture personnelle, dans l'Épître aux Romains, il est parlé de l'abondance de la grâce. Et je me suis arrêté sur cette parole, l'abondance de la grâce. Je dis, Seigneur, c'est vrai, ça me dépasse. Et des fois, c'est vrai, on fait une prière un peu intéressée, quoi. Et le Seigneur, dans l'immensité de sa grâce, il exauce. Ça me dépasse. Mais j'aimerais quand même me dire que le forfait sans engagement avec Dieu, ça n'existe pas. À un moment donné, il faut se positionner. Et peut-être ce matin, c'est un appel pressant que le Seigneur lance à plusieurs. Ne te cache pas derrière des prétextes. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Je suis trop jeune, j'ai le temps, j'ai ceci, puis j'ai tel projet, puis j'ai encore ceci. Puis... Il faut un engagement. Il faut un engagement. Et Joseph et Nicodème, ils se positionnent. Et peut-être ce matin, c'est un appel pressant. Peut-être tu n'auras pas d'autres occasions. Tu n'en sais rien. On n'en sait rien. Mais si ce n'est pas le cas, il faut te positionner. Il faut prendre une décision. Et ce matin, c'est l'occasion que Dieu te donne. Je sais, on est dans un culte. Mais un culte, c'est un moment aussi où on peut dire, Seigneur, j'arrête d'être entre les deux. J'arrête d'être entre 2 chaises. Hier soir, à la jeunesse, moi, j'ai béni le Seigneur. On a entendu le témoignage de Jessica. Elle est où, Jessica? Je t'ai vu ce matin? Ouais, elle est là. Ouais. Elle est tellement discrète. Ben c'était ça son témoignage, tu étais entre 2 chaises, c'est ça? Voilà. Elle nous a donné son témoignage et wow, ça, j'ai dit, c'est super ça. Hein, un don spirituel qui lui a dit, tu es entre 2 chaises, il faut que tu te positionnes. Et peut-être ce matin, c'est pas un don spirituel, c'est Bibi qui te le dit. Si tu es entre 2 chaises, il faut que tu te positionnes. Tu peux plus rester comme ça. Et c'est un appel d'amour. Hein. C'est un appel d'amour. Vous remarquerez que personne ne les a poussés à faire ce qu'ils ont fait là. Et ils ont pris position aux yeux de tous. Aux yeux de tous. C'est pour ça, et là j'ouvre une petite parenthèse, que le baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, c'est un acte public. Ce n'est pas en catimini dans un coin. Pourquoi ? Parce que là, devant Dieu, devant les hommes et devant l'ennemi de notre âme, on veut confesser que dorénavant, Jésus est notre Seigneur. C'est public. On le confesse devant tous. Alléluia. Et quelqu'un me dira, oui, mais le nuque éthiopien, il a été tout seul dans son coin. D'abord, ça c'est faux. Parce qu'un ministre qui se balade tout seul, il devait avoir la garde rapprochée, et puis la garde, deuxième garde rapprochée. Il a fait ça devant des tas de soldats. Il a confessé devant tout le monde, devant ses soldats, devant les gardes du corps. Il a confessé devant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais des fois, on se dit, oui, mais il était tout seul. Non, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Voyez, si ce matin tu es entre deux chaises, la croix l'exige, le tout est accompli, exige que tu te positionnes. Mais j'aimerais peut-être aussi dire ceci, peut-être à un frère ou une sœur. Peut-être que ce matin, c'est pas comme on a vu dans l'autre point, c'est pas qu'il y a un décalage. Mais peut-être il y a un domaine où il faut que, c'est pas un positionnement qu'il te faut, c'est un repositionnement. Et des fois, on a besoin de se repositionner devant Dieu. Parce que on aime le Seigneur, il n'y a pas de problème. Dans notre cœur, ouais, il y a vraiment quelque chose pour le Seigneur. J'en doute pas. Mais des fois, il y a des choses qu'on a laissées revenir. Il y a des domaines où on n'a pas laissé le Seigneur, vraiment. On n'a pas laissé la main au Seigneur. On n'y a pas laissé la main, on a fait nous. Voyez ? Et il y a des choses qu'on a fait un peu à notre façon, on a fait un peu à notre manière. Alors on aime vraiment le Seigneur. Parfois c'est juste un domaine, un point particulier où ça achoppe un peu, voyez. On sait, et au fond de nous on le sait. Et il y a besoin là d'un repositionnement. Et la croix aussi, elle exige parfois, il y a des moments, et je vais le dire comme ça. On a tous besoin, les uns ou les autres, à un moment donné, de se repositionner devant le Seigneur. Je le dis pour moi d'abord. Combien de fois je dis, Seigneur, je veux me repositionner parce que là, tu vois, il y a eu ça. Là, il y a eu une réaction qui n'a pas été bonne. Là, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors, je veux me repositionner parce que c'est nécessaire. Et c'est ce que font ces deux hommes. Vous savez, on est tous sujets, les soucis, les travaux, les séductions, les convoitises. Il y a tellement de choses, les tracas. Et on se laisse entraîner, on se laisse endormir, on ne s'en rend pas compte. Hein. Vous savez, même David, à un moment donné, hein, autant les rois se mettaient en campagne, lui, il est resté à Jérusalem, tranquille. Et puis, tout David qu'il était, il s'est fait piéger. Vous avez l'affaire Bathsheba. Et des fois, on ne se rend pas compte parce que la vie est ainsi que lentement mais sûrement, on se laisse entraîner, on s'écarte. Quand on était sur Ajaccio, la petite aimait aller à la mer, moi pas du tout, mais enfin bon, on l'a menée. Une fois, ça m'avait vraiment interpellé, et vous allez comprendre de quoi je veux parler, mais vous savez, des fois, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, au travers des petites choses de la vie, sentez le Seigneur qui dit « Regarde là ». Et la petite se baignait là avec une autre petite de l'église qui était sa copine. Et puis, elles étaient juste devant nous là. Et puis, elles s'amusaient. Et puis, au bout de 5-10 minutes, elles n'étaient plus devant nous, mais elles étaient 5-6 mètres à côté, vous voyez ? Ça avait un peu... Et puis 10 minutes après, elles étaient encore un peu plus loin. Vous voyez ? C'était imperceptible, mais tchouk, 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 ça dérivait. Hop ! Alors, on faisait « Hop !» Alors, elle revenait. Hein. Et puis, hop, après, ça repartait de l'autre côté, vous voyez. Et c'était imperceptible, pour elles ne s'en rendaient pas compte. Quand on les appelait, elles étaient là, regardez, ah ben, elles ne s'étaient même pas rendues compte que, vous voyez, elles avaient un peu dérivé. Et des fois, c'est ce qui nous arrive. Des fois, la vie fait qu'on ne se rend pas compte que petit à petit, imperceptiblement, on a un peu dérivé, vous voyez. Et le sifflet du Saint-Esprit mais nous rappelle, il dit, oup. Et peut-être ce matin, c'est ça, Seigneur, par sa parole, Seigneur te dit, attention, regarde, tu es en train de dériver. Et si tu lèves la tête ce matin, ah oui, mais c'est vrai. Et ça nécessite quoi ? Ben, comme les deux petites qui devaient se repositionner pour se remettre dans l'axe, ça nécessite qu'on se remette dans l'axe sur le plan spirituel. Peut-être ce matin, tu as besoin de te remettre dans l'axe. Non pas que tu as tout abandonné, mais le tout est accompli, comme ces deux hommes, peut-être nécessite aussi un repositionnement. Alors je termine, je ne veux pas être long. Ce cri de Jésus sur la croix, tout est accompli, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous savez, depuis que le monde est monde, il y en a eu des cris sur la terre. Qu'est-ce qu'il y en a eu? Des cris de violence, des cris de colère. Ça va pas tarder. Hein. Entre Cain et Abel, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais à mon avis, ça n'a pas dû être à piquer des verres entre les deux. Il y a toutes sortes de cris qui ont été là, des cris de révolte, des cris de contestation. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. On entend des tas de cris, hein, des tas de révoltes qui se passent ici et là, quel que soit le domaine. Mais j'aimerais dire que le plus beau et le plus grand cri que la terre ait jamais entendu prononcer, c'est celui que Jésus a accompli à la croix. Et c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu, et vous le retrouvez aussi dans Marc, Jésus poussa non pas un cri, mais un grand cri. C'est pas n'importe quel cri, c'est le cri de victoire, c'est le cri de triomphe. Et ce cri-là, il demande de nous une introspection. Et ce matin, je voudrais vraiment que on puisse rentrer en nous-mêmes et de se dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis moi ce matin? Est-ce que entre toi et moi, Seigneur, il y a un décalage qui fait que j'ai besoin vraiment, Seigneur, de me ressaisir sérieusement, parce que si je reste comme ça, je vais tout perdre. Est-ce que ça nécessite peut-être ce matin un positionnement? Il faut que tu prennes position pour le Seigneur. Il ne faut, faut plus que tu restes entre deux eaux. Est-ce que ça nécessite un repositionnement? Je ne sais pas. Ça, c'est à chacun d'entre nous, mais c'est trop important. C'est trop important. On ne peut pas rester comme ça. Le tout est accompli, ça nécessite du sérieux ce matin. Ça nécessite du sérieux. On est devant Dieu. Et je voudrais tellement que ce matin, je voudrais vraiment faire un appel pressant. Un appel pressant. Vraiment pour que vraiment les uns et les autres on puisse réfléchir, Seigneur. Toi, le tout est accompli. Il est là devant nous comme une grâce. Il est là devant nous comme, encore plus de 2000 ans après, il est là devant nous comme vraiment comme un message d'espoir. Mais il est aussi là pour nous rappeler que avec ça, le Seigneur, excusez-moi l'expression, je n'ai pas d'autre mot qui me vient, il ne rigolera pas. Hein, parce que ce que ça a coûté à Jésus, on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas manquer de sérieux. On ne peut pas jouer, on ne peut pas faire, ouais, on ne peut pas se contenter de faire le yo-yo, l'élastique. Parce qu'à force de faire l'élastique avec le Seigneur, un jour l'élastique il claque. Hein. Alors peut-être ce matin, il faudrait vraiment lancer un appel pressant. Où est-ce que nous en sommes? Le tout est accompli, a été prononcé, il est là. Il est là. Mais face à ça, moi, nous, où est-ce que nous en sommes? Et si ce matin c'était le moment pour te positionner, pour prendre enfin une décision, dire Seigneur, je veux vraiment maintenant, Seigneur, plus rester comme ça. Je veux vraiment te donner mon cœur, je veux vraiment te donner ma vie. C'est important, c'est peut-être un moment d'éternité pour quelqu'un ce matin. C'est un moment de salut pour quelqu'un. Mais peut-être je veux me repositionner, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ma vie. Seigneur, je veux me repositionner. Peut-être je veux vraiment me reconsidérer ma position parce qu'il y a un contraste qui est là et dans lequel je suis et je veux pas m'y habituer. Alors on va demander au Seigneur sa grâce de nous aider. Je vais demander, tu viens, on va chanter ce chant, merci pour la croix, pour le prix payé. Je vais demander aux frères de s'approcher.